Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Au sommaire ce soir, la prudence du gouvernement face à la situation sanitaire qui s'améliore. Il y aura des premiers aménagements dès le 4 octobre dans les départements où le virus circule peu. Fin des jauges et port du masque levé à l'école primaire. En revanche, le pass sanitaire reste en place pour le moment car il est un outil efficace pour éviter de refermer les lieux recevant du public. C'est ce qu'affirme le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La décision d'assouplir ce pass sera réévaluée dans les prochaines semaines. La querelle autour de la présentation du budget 2022, les dépenses de l'État s'envolent. C'est une gabegie, dénonce l'opposition de droite. De son côté, Bruno Le Maire défend un budget sincère, alors que le Haut Conseil des Finances Publiques, au contraire, fustige le budget et refuse de se prononcer car il le juge incomplet. Deux mesures n'y figurent pas, le plan d'investissement de 30 milliards pour l'innovation et le revenu d'engagement pour les jeunes qui pourrait se monter à 2 milliards d'euros par an. On y revient ce soir. L'insécurité, c'est à nouveau la petite ville de Cavaillon, en proie au règlement de compte entre trafiquants de drogue. Une nouvelle fusillade a eu lieu hier soir à proximité d'une école. On sera sur place tout à l'heure. Et puis le trafic de drague, de crack et les toxicomanes à Paris, c'est un vrai caillou dans la chaussure de la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo. La maire de la capitale a renvoyé la responsabilité de cette situation déplorable à la préfecture de police. Les riverains sont furieux, ils manifestent à nouveau ce soir. L'actualité, c'est également Emmanuel Macron qui s'est entretenu cet après-midi avec le président américain Joe Biden sur la crise ouverte entre Paris et Washington après la rupture du contrat des sous-marins avec l'Australie. On ne sait pas encore ce que les deux hommes se sont dit lors de cette explication que l'on imagine musclée. Et puis il y a aussi cette photo, la photo dont on parle ce soir, une image volée. Éric Zemmour en compagnie de sa conseillère, ils sont à la plage à la Seine-sur-Mer, à Toulon, en marge d'une dédicace de son livre. Est-ce une information? Est-ce un nouveau signe de la pipolisation de la vie politique? Pourquoi un tel traitement pour Éric Zemmour, qui n'est pas encore candidat à la présidentielle? On débat de tous ces sujets d'actualité avec mes invités ce soir. Karim Zerebi est avec nous, consultant CNews. Bonsoir Karim.
Bonsoir.
Jean-Claude Dacier est là, consultant CNews. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes avec François Pupponi. Bonsoir.
Bonsoir.
Député apparenté Modem du Val d'Oise. Et enfin Louis de Ragnel. Bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Chef du service politique d'Europe 1. Un menu fourni. On commence tout de suite par la situation sanitaire. Écoutons Gabriel Attal sur le pass sanitaire.
S'agissant du pass sanitaire, celui-ci s'est confirmé comme étant un outil très efficace. Il va nous falloir prolonger la possibilité pour le gouvernement de pouvoir utiliser le pass sanitaire si la situation épidémique le justifie et si nous voulons, encore une fois, ne pas avoir à refermer des lieux qui, sans cet outil, devraient refermer. Et puis, évidemment, nous allons continuer à travailler sur une adaptation. Le président de la République a passé commande pour que des critères d'adaptation puissent être définis. Ils tiendront compte évidemment du taux d'incidence dans les différents départements, mais ils tiendront compte aussi du pourcentage de population vaccinée dans ces mêmes départements. Vous l'avez donc compris, à ce stade, il n'y a pas de décision d'adapter le pass sanitaire qui continue à s'appliquer dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.
Voilà pour ces mots du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Le pass sanitaire, ce n'est pas SOP, c'est encore dans notre quotidien. On en débat ce soir dans Punchline. C'est parti.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur CNews et Europe 1 dans Punchline. La situation sanitaire, évidemment, l'une des principales préoccupations des Français. Le pass sanitaire, on pensait qu'il allait être allégé. En fait, non. Le gouvernement joue la prudence. Il souhaite le maintenir encore quelques semaines. En revanche, le masque sera enlevé dans les écoles primaires. C'est une bonne nouvelle pour nos enfants. On va tout de suite faire le point des mesures annoncées tout à l'heure par le gouvernement avec Élodie Huchard du service politique de CNews.
Oui, Laurence, le gouvernement veut trouver un équilibre entre optimisme et prudence. Optimisme d'abord parce que Gabriel Attal l'a dit, il y a une nette amélioration de la situation. Le gouvernement se réjouit du fait, par exemple, que malgré la rentrée, le retour au travail, il n'y ait pas eu de reprise de l'épidémie. On ne veut pas imposer une seconde de trop des restrictions aux Français, a dit le porte-parole du gouvernement. Et donc d'ailleurs, il a fait un certain nombre d'annonces. Fini le masque à l'école, fini aussi les jauges qui restent encore en place à partir du 4 octobre pour un certain nombre de départements. Ils seront définis selon un critère très simple. Il faudra que le taux d'incidence soit de moins de 50 cas pour 100 000 habitants et que ce taux soit stabilisé, c'est-à-dire qu'il soit à peu près le même pendant 5 jours. Alors pourquoi le masque à l'école? Parce qu'on nous explique dans l'entourage de l'exécutif que c'était l'une des mesures les moins acceptées qui faisait le plus polémique. Et puis évidemment, la prudence, il ne faut pas aller trop vite. Même si le président de la République a demandé de réfléchir à de potentiels critères d'assouplissement du pass sanitaire, pour le moment, ça n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de décision prise aujourd'hui en Conseil des ministres à ce sujet. Le gouvernement qui rappelle aussi souvent que ce pass sanitaire est ce qui a permis d'éviter la fermeture des restaurants ou encore d'un certain nombre de lieux culturels. Et puis le gouvernement qui rappelle aussi qu'il compte bien s'appuyer sur ce pass tant qu'il sera nécessaire, même si évidemment il veut éviter de le faire durer trop longtemps.
Merci beaucoup pour ces précisions, Élodie Huchard. François Pupponi, vous êtes député. On n'y comprend plus grand-chose. On nous disait qu'il va être allégé. Tiens, dans les régions où le virus circule peu, il n'y aura peut-être plus de passe sanitaire. En fait, pas du tout. Patatras.
C'est parce qu'il y a Gabriel Attal. Effectivement, il a annoncé des mesures en disant on commence par les écoles, mais ils sont en train de réfléchir et on le sait. Alors, il y aura un débat sur le passe sanitaire à l'Assemblée nationale parce qu'il faut prolonger la possibilité de le maintenir après le 15 novembre s'il y en a besoin. Mais le ministre l'a dit, il y a aussi des réflexions pour arrêter maintenant le pass sanitaire dans les départements où il n'est pas encore nécessaire puisque le virus ne circule plus.
Alors là, donc, là vous me perdez complètement. Gabriel Attal a dit on maintient le pass sanitaire.
Pour l'instant,
on est d'accord.
Mais on va prolonger la possibilité de le garder, mais dans la mesure du possible, on le supprimera dans les départements.
C'est le en même temps, mais poussé à son extrême.
Ils y vont petit à petit. De toute façon, on aura le débat dans l'hémicycle, y compris sur le pass sanitaire, et je pense que c'est à ce moment-là que les annonces seront faites.
Louis de Ragnel, il y a eu une fausse bonne surprise, on ne savait pas que ce pass sanitaire finalement allait être maintenu.
Alors en fait, il y a un sujet technique et politique. Le sujet technique, c'est que le cadre légal qui permet aujourd'hui de mettre en place le pass sanitaire sur tout le territoire fonctionne tel que la loi le stipule aujourd'hui. Et en fait, le gouvernement réfléchit effectivement à lever progressivement le pass sanitaire de manière territorialisée, pardon, on en a parlé. Et pour ça, en fait, il faut que ça passe par une nouvelle loi. Donc effectivement, le gouvernement travaille à cette nouvelle loi. Mais l'objectif politique derrière tout ça, parce que ça, c'est un peu de la tambouille et de la technique, l'objectif politique, c'est surtout pour le gouvernement d'essayer de se libérer en fait du poids que ça représente de cette gestion du pass sanitaire et de faire reposer en fait la décision sur les épaules des préfets. Et du coup, ça permet, l'objectif, c'est vraiment de se dégager de tout ça pour pouvoir s'intéresser aussi à d'autres sujets, expliquer que ce sont les préfets dans les départements qui s'occupent de ça et que le gouvernement, lui, gère autre chose. Alors qu'en réalité, on le sait très bien, les préfets sont les représentants du gouvernement les départements. Absolument. Donc en fait, voilà, c'est simplement une question aussi d'affichage, cette volonté d'aller vers, de faire travailler. C'est le couple maire-préfet et tout ça qui a été tant vanté pendant des mois. Voilà, alors tout ça, c'est un peu de l'habillage, mais dans le fond, effectivement, c'est quand même le gouvernement qui est derrière à la manœuvre.
Karim Mezerabi, les Français, ils comprennent quoi ce soir, en fait?
Ils comprennent qu'on est sur une séquence de communication pour occuper le terrain, en nous disant clairement, c'est le statu quo, mais il y aura peut-être des perspectives d'évolution en fonction de la situation dans les territoires. Mais, en l'occurrence, au moment où nous nous parlons, rien ne change. Ce n'est peut-être dans
certains... Le masque pour les petits.
Le masque pour les petits... Ce qui n'est pas rien quand même pour les gamins. Hein. Donc effectivement, c'est une mesure qu'on attendait et qu'on est heureux de voir venir. Mais sinon, pour le reste et pour le pass sanitaire, c'est plutôt statu quo, avec effectivement, en fonction de l'évolution. Et cette prudence, elle est liée au fait que les Françaises et les Français ne supportent plus trop le stop and go. Et comme on ne sait pas comment on va rentrer dans séquence qu'est l'automne, avec le refroidissement, les températures et autres, on se dit mieux vaut maintenir le pass sanitaire, voir comment cela évolue et prendre une décision avec des paramètres d'éléments beaucoup plus concrets, beaucoup plus solides, parce que si on le lève, c'est pas pour le remettre dans deux mois. Donc effectivement, et puis ce que nous disait François Pupponi, ça nous mène quand même jusqu'au 15 novembre avec cet état d'urgence sanitaire, c'est la date fatidique où tous les moyens ont été donnés à l'État. Il va falloir que le Parlement se prononce. Est-ce qu'on prolonge de manière temporaire? Est-ce qu'on cesse effectivement cette délégation totale avec des moyens, on va dire, hors normes? Donc c'est le Parlement qui décidera.
Jean-Claude Dassy, est-ce qu'il y a un impact économique pour ce pass sanitaire auprès des commerçants? On sait que ça impacte beaucoup les cinémas. Il y a vraiment gagné sur du côté des cinémas.
Oui, enfin, moi, je n'ai pas eu d'expérience où les queues interminables nous empêchaient d'aller soit au concert, soit au cinéma, ou soit dans les restaurants. Globalement, vous ne me ferez pas dire de mal du pass sanitaire qui a obtenu au contraire une large adhésion des Français pour se faire notamment vacciner pour ceux qui avaient quelques réticences. Moi, je reconnais que le président de la République a peut-être laissé entendre, avec un petit peu trop d'assistance,
absolument,
début de la semaine, qu'on allait sans doute régionaliser, territorialiser le pass sanitaire dans les départements ou dans les zones où il y a moins de 50 taux d'incidence. On pouvait effectivement l'envisager. J'imagine, il a peut-être parlé un peu vite, hein, j'imagine que...
Mais peut-être que les médecins lui ont un peu
C'est sans doute ce que j'allais dire, oui. Il a écouté, comme beaucoup, M. Fontanet, qui a expliqué qu'après tout, on n'était pas à l'abri d'un redémarrage.
À l'automne, là. Ou cinquième lui, il annonce un redémarrage à l'automne.
La chute des températures. Il a écouté, il y avait un conseil scientifique, c'était quand ce matin ?
Conseil de défense.
Il y avait un conseil de défense. Enfin, il y a toutes les pontes et les stars et les spécialistes qui ont sans doute dû dire, attention, soyez, Monsieur le Président, soyez prudent. Et moi, si je puis me permettre, j'approuve cette prudence parce qu'encore une fois, il y a 8 millions de Français qui ne sont toujours pas vaccinés. C'est beaucoup.
Dont 2,6 millions.
2 millions 5 ou 6 qui sont des personnes vulnérables d'un âge avancé et qui sont malades de telle ou telle comorbidité. Donc, je trouve, je ne suis pas expert, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas épidémiologiste, mais je pense que marquer encore un peu de prudence, on est au premier jour de l'automne, quelques semaines encore, ça me paraît raisonnable. Et j'ajoute, et je termine, que, là je suis en léger désaccord avec mon camarade Karine, que le fait de rendre payant désormais les passes...
Les
tests sanitaires, certains c'était des tests qui permettaient d'éviter de se faire vacciner, je pense que c'est une bonne décision, parce qu'il va quand même falloir choisir, on ne peut pas passer sa vie à se faire tester, il va falloir ou choisir de se faire vacciner, ça va sans doute se passer, et certains resteront dans une opposition qui les regarde, après tout, on n'a pas de vaccination obligatoire dans ce pays, chacun fait ce qu'il veut, mais ça a des conséquences. Tant que le pass sanitaire sera là, et si on le repousse, pourquoi ? Pour encore au moins un mois ou deux ?
Alors, François Bisset, vous êtes parlementaire.
C'est d'ailleurs la difficulté pour le gouvernement. Il était compliqué pour lui de dire, je suspends le pass sanitaire dans certains départements, mais en même temps, je prépare une loi pour le prolonger après le 15 novembre. Donc c'est pour ça que le débat sur le pass sanitaire, il doit être global. Oui, il va falloir le prolonger, en théorie, s'il y en a besoin, mais on pourra le lever au niveau territorial, par les préfets, là où c'est possible. Et c'est vrai que s'il avait tout de suite levé le pass sanitaire dans certains départements, on aurait dit, c'est plus la peine de le maintenir jusqu'au 15 novembre. On supprime tout. Et là, techniquement, c'est compliqué, parce que le débat dans l'hémicycle va être compliqué. Karim le disait à juste titre, c'est la prolongation du pass, c'est la prolongation de l'état d'urgence, et donc ça va pas être simple, parce que les oppositions, et c'est normal, commencent à dire, maintenant, ça fait beaucoup. Ça fait globalement presque 2 ans qu'on est dans une espèce d'état d'urgence qui enlève au Parlement des pouvoirs importants, qui donne au gouvernement des pouvoirs exorbitants, et donc ça commence à faire beaucoup.
Louis Dragnel.
Et puis on va retrouver, vous savez, ces fameuses cartes avec les codes couleurs, avec d'un département, vous partez d'un département vert vers un département orange, à un département rouge, où on sait très bien à la fin, d'ailleurs, on parlait sur tous les plateaux de télévision, que ça n'avait plus aucun sens, puisque par définition, les gens circulent, vont d'un département à un autre. Voilà. Et en plus, ça mettra une deuxième fois, une troisième fois la focale sur forcément des départements qui concentrent un peu tous les maux, et les départements les moins peuplés seront sans surprise ceux qui pourront lever cette obligation du pass sanitaire, et il y a fort à parier que les grandes villes et les départements peuplés, les départements plus pauvres, seront encore une fois pénalisés, devront vivre plus longtemps avec ce pass sanitaire.
Ça lui arrive parfois.
Karim Zerebi.
Vu les statistiques aujourd'hui au niveau national, je pense qu'il est sage de se diriger vers une approche territorialisée. Donc ça me paraît logique. À partir du moment où il y a des territoires qui ne sont pas sortis totalement d'affaires, mais qui se portent mieux en matière d'indicateurs, donc pourquoi maintenir des contraintes dans la vie quotidienne des Français avec ce pass sanitaire ? Je le disais tout à l'heure, le vrai défi du gouvernement, lorsqu'on va se passer du pass sanitaire, c'est de continuer d'expliquer aux Français qu'il y a un certain nombre de gestes barrières et de ports de masque en certains lieux qu'il faudra maintenir. Parce que ça ne voudra pas dire que la bataille est totalement gagnée. Ça veut dire qu'on desserre, mais on ne relâche pas totalement. Et c'est toujours cet entre-deux qu'on a mal géré depuis le départ. Quand on a déconfiné, on a pensé que c'était la vie d'avant. Non, ce n'est pas la vie d'avant. On déconfine, mais il fallait maintenir des gestes. On ne l'a pas toujours fait dans la règle de l'art. Là, il faut qu'on tire aussi des enseignements de l'expérience que nous avons tous collectivement pour dire si le pass sanitaire disparaît, il va falloir qu'on soit quand même encore un peu vigilant.
François Bipponi, la question des tests PCR qui vont être payants à partir de la mi-octobre. Karim Zerebi disait, franchement, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'on ne pouvait pas repousser un peu cette mesure au moment où on a des peurs, des craintes que cette épidémie ne redémarre ?
Alors, le problème, c'est qu'on sait très bien qu'en mettant les tests gratuits, PCR gratuits, les gens ne se font pas, qui ne veulent pas se faire vacciner, ne seront pas vaccinés, et lorsqu'ils doivent faire quelque chose, ils vont faire un test. Et donc, ils en abusent. Et ça a coûté quand même quelques
milliards.
On est entré entre 5 ou 6 milliards d'euros pour. Ouais, c'est énorme. Le coût des tests, c'est énorme.
Donc, on a raison de les rendre payants rapidement.
Parce que les professionnels qui le font, ils se font payer très cher.
Ah ouais.
C'est bon. Et donc, moi, il faut arrêter pour des raisons budgétaires, mais aussi pour inciter ces personnes, non plus à faire des tests trois fois par semaine,
mais à se faire vacciner.
Bien sûr.
Carrément, ça vous paraît aberrant.
Non, mais je maintiens devant le député Pupponi que pour moi, le moment n'est pas opportun. Je peux comprendre la mesure à un moment donné que puisse tomber. Je trouve que rentrer dans l'automne, avec cette incertitude liée aussi aux températures, où on nous dit peut-être que ça favorise le virus, la propagation et autres, on a des gens dont on parle de troisième dose. Ça veut dire qu'ils sont peut-être, ils ont moins de défense immunitaire. On a des gens qui sont pas vaccinés, qui se vaccineront pas et qui peuvent être porteurs et qui n'auront pas à se faire de test. Je trouve que, en termes de prévention, on a maintenu le quoi qu'il en coûte. Ça nous a coûté des milliards et des milliards. Oui, donc là, pour se dire, allez, on a 2 mois d'automne, où on va quand même être prudent et faire encore acte de prévention, et ensuite on prendra la décision début 2022, et en même temps, donc on aura plus d'éléments pour analyser la situation. Là, je trouve que quand ça tombe, déjà, le pass sanitaire, c'est une obligation de vaccination directe.
Vous avez bien compris, c'est pas pour une question de coût. C'est pas on annonce des mais non, c'est pas
c'est donc
regardez
donc,
tous les milliards qui sont annoncés
que je propose le maintien.
Non, c'est une décision politique.
C'est donc
c'est une décision
politique
pour forcer, pour pousser, c'est l'acte 2 ou l'acte 3 pour inciter les Français à se faire vacciner et pour inciter les derniers irréductibles en les prenant au portefeuille et pour leur dire allez-y, faites-vous vacciner, maintenant c'est terminé. Après il y a un tout petit sujet sur les gens qui venaient de l'étranger pour bénéficier des tests PCR gratuits, mais globalement quand on voit tout l'argent qui est injecté matin midi, enfin peut-être pas matin midi et soir, mais en tout cas chaque semaine, ce que ça représente par rapport aux annonces en termes de milliards, c'est aujourd'hui epsilon.
C'est un acte de prévention dont on se prive qui me paraît grave dans le contexte.
Il y a quand même un aspect financier parce que c'est compliqué pour le gouvernement et j'en appelle de dire j'augmente quelque part les dépenses courantes parce que la situation le nécessite et en même temps je continue le quoi qu'il en coûte. Les deux n'étaient pas possibles. Donc avant, comme le choix a été fait de dire on va revenir à un mode de fonctionnement un peu plus normal en termes budgétaires.
On ne peut pas continuer
les deux, on peut
à laisser
pas faire.
Les tests gratuits.
Donc, mais effectivement, c'est les raisons sanitaires, mais
si
l'aspect budgétaire
si
n'est pas
très
important.
Par exemple, soit on dit vaccination obligatoire et dans ce cas-là, on dérembourse les tests. Et moi, c'est parce que je plaide pas en faveur de ça. Soit on dit la vaccination n'est pas obligatoire, ce qui est le cas aujourd'hui. Dans ce cas-là, effectivement, l'alternative qui a toujours été fixée, c'était de permettre à ceux qui ne souhaitaient pas être vaccinés de passer par les tests PCR.
On pourra, sur prescription médicale, avoir ce test remboursé, Karim, quand même.
Pour les cas,
vraiment, on supprime ceux qui le font pour aller au restaurant.
Encore de la paparasserie.
On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On évoquera ce qui se passe dans la petite ville de Cavaillon, où de nouvelles fusillades ont retenti hier. A tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on s'intéresse à la situation à Cavaillon, une petite ville de 26 000 habitants. Le quartier du docteur M est en tension depuis plusieurs semaines. Hier encore, une fusillade a éclaté en raison du trafic de drogue. Il y a une guerre entre trafiquants de drogue et cela à proximité d'une école. Les enfants ont été mis à l'abri pendant un temps. Les renforts de la BAC n'arriveront que au mois de janvier prochain. Regardez ce reportage de Stéphanie Rouquier et Anne Maquignon.
11 heures hier matin, plusieurs coups de feu sont échangés dans ce quartier de Cavaillon. Par mesure de sécurité, les écoles se confinent quelques heures. Sur place, aucun tireur n'est identifié, aucune douille retrouvée. Cette fusillade n'est pas une première. Les échanges de tirs sont fréquents entre bandes rivales liées au trafic de drogue. Le maire de la commune a même décidé la fermeture de tous les services municipaux.
Le quartier devenait trop dangereux, il y a eu plusieurs fusillades et je ne voulais pas prendre le risque qu'un de mes agents prenne une balle perdue, tout simplement. Plus les administrés qui viennent dans les services et qui auraient pu aussi prendre une balle perdue au moment de leur visite.
Il y a un mois, le ministre de l'Intérieur s'était rendu sur place, promettant le retour de la BAC de nuit pour limiter le trafic. Cette brigade ne sera opérationnelle que début 2022, une mesure utile et attendue, mais pas suffisante pour le maire.
Ce qu'il faut, c'est incarcérer ces délinquants qui viennent tirer dans les quartiers pour récupérer les points de deal. Donc aujourd'hui, la police judiciaire est en train de faire son travail. Je pense que bientôt, elle aura les preuves avérées pour pouvoir intervenir.
Une compagnie de CRS a été déployée hier en attendant le retour au calme. Trois renforts de la police nationale sont déjà arrivés à Cavaillon à la rentrée. Deux autres sont encore attendus pour le mois d'octobre.
Voilà pour ce reportage de Stéphanie Rouquier et Anne Maquignon. Notre équipe a été insultée et raccompagnée à la sortie de la cité par un certain nombre de dealers à scooter. François Pupponi, là, on parle de zones qui sont quoi ? Alors, ce n'est pas des zones de non-droit ? Qu'est-ce que c'est, ces zones ?
Alors, c'est toujours pareil.
Au cœur d'une petite ville. Hein,
voilà, quotidiennement, ce ne sont plus des zones de ce sont des zones de non-droit, puisque la police y est très peu présente. Et donc, les dealers font ce qu'ils veulent. Ils font la loi. Si la police décide d'y aller, c'est elle qui aura le dernier mot. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais aujourd'hui, plus le ministre de l'Intérieur va dire, par exemple, on va mettre beaucoup de moyens sur Marseille. Ben, les moyens, comme il ne les a pas sous la main, il les prend à un endroit pour les mettre à Marseille. Et donc, il dépossède d'autres endroits qui en auraient besoin, des moyens qu'il y a. Donc là, quand on dit qu'il va amener deux policiers, plus trois policiers, plus la BAC nuit...
Mais en janvier.
Mais en janvier, ça veut dire qu'à un moment, le problème... Quand on dit qu'il faut recruter 10 000 policiers, oui, il faut 3 ans pour le faire. Mmh. Bon, et donc, ben, pendant ce temps-là, on jongle avec les effectifs, on essaye de les prendre à un endroit pour les mettre ailleurs. Et quand on met la pression sur un endroit, bah, l'autre se développe. Et plus la police mettra la pression sur certains endroits, et plus le trafic va se développer là où la police est moins présente.
Mais donc pour les habitants
C'est insupportable.
Donc
on
met les enfants à l'abri
le maire qui ferme tous les services municipaux, les écoles qui sont fermées. C'est qu'à un moment, quand c'est comme ça, la République n'est plus capable de faire face. Et donc il faut attendre le renforcement des moyens de police pour que l'État et la République reprennent le dessus.
Karim Zerebi, les habitants peuvent attendre ou pas ? Ou est-ce que leur vie quotidienne est rendue impossible ?
C'est évident que pour les habitants, il y a une urgence. Il y a une urgence quant aux conditions de vie qui sont totalement déplorables. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants s'amuser en toute sérénité. Vous descendez on vous demande effectivement quasiment où vous allez. Vous accueillez des invités chez vous qu'on leur demande leur pièce d'identité dans des checkpoints que les jeunes mettent en place. Donc ce n'est plus un territoire où il fait bon vivre. Et cette situation, elle se dégrade. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un transfert de zones aujourd'hui
c'est
sous pression policière.
C'est pas le trafic de Marseille qui remonte sur Cavaillon, Avignon.
Mais pas du tout. Le trafic à Marseille, il se délocalise pas à Cavaillon. C'est le rapport de l'offre et de la demande. Il y a de plus en plus de demandes. Donc il y a une offre qui se démultiplie. Et puis l'offre, elle est juteuse. Donc il y a de plus en plus de personnes qui s'engouffrent là-dedans.
Ça rapporte des milliers d'euros, un point de vue là.
Ça rapporte des centaines de milliers d'euros. Déjà, un jeune qui fait le guetteur, c'est entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Il a 14 ans, 15 ans, parfois 13 ans maintenant. On a même vu des gamins de 10 ans arrêtés par la police qui se situent à l'entrée du quartier pour informer si la police arrivait. Et pour les têtes de pont, c'est des 300, 400 000 euros par mois. Donc c'est des millions d'euros, c'est 4 milliards le trafic de cannabis dans notre pays. On a un problème d'effectifs. On a un problème de présence policière. Donc ça, c'est mais alors c'est impératif. Mais une de présence policière constante, pas de d'opération coup de poing. Là, vous avez une compagnie républicaine de sécurité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce quartier de Cavaillon, vous allez avoir un fourgon de CRS qui va être là, visible, pour contrôler les entrées et les sorties. Mais ça va durer une semaine. Et les compagnies républicaines de sécurité sont là pour faire du maintien de l'ordre. Vous êtes rappelés sur d'autres terrains et en France. Ça ne va pas. Ce mode opératoire ne fonctionne pas. Il nous faut mettre en place une police quotidienne et il faut corréler les forces. On a 150 000 forces de la police nationale dans notre pays. On a 100 000 gendarmes. On a 26 000 policiers municipaux. Donc, au bas mot, vous avez 300 000 forces de sécurité. Il nous en faut plus. Il nous en faut plus. Et 30 000 fonctionnaires de police de plus, c'est ce que le syndicat SGP dit. Donc, c'est 1 milliard 200 millions par an de plus sur le budget de l'État.
C'est parce que le gouvernement
l'État.
A prévu. Ils ont prévu de doubler le nombre de
policiers. Oui, mais parce que le gouvernement est face à un retard qui est aussi lié aux précédents gouvernements qui n'ont pas fait les efforts. Et effectivement, François le disait, on recrute 3 000 personnes par an, mais ce n'est pas suffisant.
Louis Dragnel, d'Europe 1.
Moi, je pense qu'il y a deux questions. Il y a la question de la masse, des effectifs, ce que vous évoquez. Et effectivement, il y a une question de la présence policière. Ça doit passer, moi, je pense, comme ça vient d'être fait à Marseille, je pense qu'il faut multiplier ce système-là, mettre à demeure des compagnies républicaine de sécurité, parce que des policiers qui sortent d'école en sécurité publique, les tirs à l'arme de guerre, c'est, faut être formé aussi à ça, et pour le coup les CRS et les escadrons de gendarmes mobiles savent faire ça. Donc moi je pense que maintenant ce qu'il faut, c'est assumer de mettre à demeure. Donc ça a un coût forcément, et donc ça passe par la création, je pense, de nouvelles unités de force mobile. Donc ça c'est en tout cas pour la question de la masse et de la capacité à être présent, et politiquement c'est pas extrêmement compliqué. Ensuite il y a la question des consignes qu'on donne aux policiers, parce qu'en fait vous avez beau avoir des effectifs en nombre sur un territoire donné, je pense même, regardez à Paris, il y a énormément de policiers qui potentiellement sont disponibles sur la voie publique, et pourtant il y a des questions d'insécurité. Pourquoi ? Parce que les policiers sont pas assez présents en réalité, de manière effective. La nuit, je vous donne un chiffre, la nuit en permanence dans toute l'agglomération parisienne, il y a 500 policiers qui circulent. C'est très peu, il y a 27 000 policiers de la sécurité publique à Paris. C'est rien du tout. Du coup, je pense qu'il y a aussi la question de remettre les gens sur le terrain. Et puis les consignes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous envoyez des policiers qui sont complètement inhibés, qui ont qu'une trouille, c'est de sortir leur arme, parce que dès lors qu'ils la sortent, avant même de tirer, même en légitime défense, ils se disent « je vais avoir un signalement à l'IGPN, ma carrière va être flinguée », alors que les gars font simplement leur boulot, mais en fait, on n'y arrive pas. Et la dernière chose, s'agissant strictement du cas de Cavaillon, il y avait quand même une possibilité, parce que on a annoncé effectivement des renforts avec une unité de CRS. Je ne sais pas comment elle sera... Vous savez, souvent, on annonce une unité de CRS. Dans une CRS, il y a 4 sections. Et souvent, en fait, il y a... on dit une CRS, en fait, il y a 2 sections, c'est-à-dire il y a 2 équipes. Et si on veut avoir un truc efficace, il faut que ça tourne le jour et la nuit. Et donc, on a fait venir cette compagnie républicaine de sécurité, cette CRS de loin, alors qu'à 25 km, il y a une CRS qui est à demeure. Et le préfet a la possibilité de réquisitionner la CRS la plus proche de l'endroit où ça se passe. Et le préfet, je le constate, ne l'a pas fait. Il pouvait le faire.
C'est parce qu'il y a trop de quartiers à sécuriser.
Mais non,
c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre.
Mais non, c'est que vous ne pouvez pas déshabiller
un pied au poids de l'épaule.
C'est ça le problème que nous avons.
Terminé, Louis Dragnel, après
Jean-Claude. Je pose simplement la question, est-ce que la CRS qui est à 25 km de Cavaillon, est-ce qu'elle était potentiellement réquisitionnable pour aller à Cavaillon très rapidement? Je pose la question, j'ai pas encore la
réponse. François Dupont-Cartre,
il y a énormément de cas qu'on me remonte avec des CRS qui sont dans leur CRS, il se passe des problèmes à 15 km, ils sont chez eux, ils peuvent être réquisitionnés. Et ben non, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes à Marseille, on réquisitionne une CRS de Lille. C'est, honnêtement, reconnaissez que c'est absurde.
C'est vrai que sur la mobilisation des CRS, c'est toujours très compliqué. Nous voyons arriver des gens de Nantes, de Lille, de Bordeaux qui arrivaient, qui, bon, ok, ils tournent. On les envoie là où on peut.
Ils passent leur temps sur la route.
Ils passent leur temps sur la route. Ouais. Quand ils passent leur temps sur la route, après, ils ont le droit de récupérer effectivement les heures qu'ils ont passées, parce qu'ils ont passé beaucoup d'heures. Donc la gestion... Alors, le gouvernement, enfin l'État, essaye de rationaliser tout ça. Ça a été fait en Ile-de-France, où effectivement, le préfet de police peut maintenant réquisitionner pour Paris et la petite couronne, et pas encore la grande couronne, mais on y arrive petit à petit. Et puis dans les zones régionales. Mais c'est effectivement très compliqué. Et s'ils sont, par exemple, la CRS d'Avignon...
Ça peut s'organiser.
Voilà, mais si, bien sûr. Mais si elle est réquisitionnée depuis 3 semaines sur Marseille, par exemple, on est obligé d'aller chercher celle de Lille pour venir à Cavaillon. Ça paraît absurde.
Il y en a plus proches. Vous ne mesurez pas la problématique. Excusez-moi, moi je veux bien qu'on puisse progresser dans la gestion des ressources humaines des compagnies républicaines de sécurité. Ce serait certainement très bien qu'on puisse le faire. Mais les CRS, ils sont appelés tous les samedis sur des terrains de manifestation en France depuis 2 ans maintenant. C'est eux qui sécurisent toutes les manifestations. C'est eux qui sont appelés sur les quartiers en trafic de drogue. C'est eux qui sont appelés pour des sécurisations même de territoires sous-jacents en danger, en sécurité publique. Donc les cœurs de centre-ville. Donc quand vous avez des manifestations culturelles et autres, vous avez des camions de CRS, les concerts et autres, les terrains de foot tous les samedis. Donc les CRS sont appelés partout. Je veux dire, donc à un moment donné, je pense que oui, on peut mieux gérer les ressources humaines et CRS, mais si on le fait, on n'aura pas la réponse à notre problème. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de quartiers qui deviennent des quartiers pris par des trafiquants de drogue, qui mettent en place des règles qui ne sont pas des règles de la République, avec des habitants pris en otage. Comment on libère ces habitants? Par une présence policière quotidienne. Et le CRS aujourd'hui, il n'est pas formé pour ça. Le CRS, si, pas du tout. C'est une police d'ordre public et d'intervention ponctuelle. Ça n'est pas la sécurité publique. Aujourd'hui, on a besoin d'un corps.
On est au-delà.
Parce que vous vous imaginez la sécurité publique, c'est l'otage de papa. Excusez-moi, le monde a changé. Aujourd'hui, vous avez des gens en sécurité publique formés, armés, sportifs, si vous leur donnez les effectifs et les moyens d'être dans les quartiers tous les jours, ils vont se faire un plaisir d'y être. Seulement, ce n'est pas les modalités qu'on a choisies. On y va de temps en temps et on laisse les dealers prospérer. Ça, c'est la faute de ceux qui gèrent la police nationale.
Jean-Claude Dacier, non ? Ah,
je suis un
vous
peu...
Vous êtes un peu quoi ?
Ben, je suis quoi devant cette querelle d'experts ? Ce qui est vrai, c'est que quand on... Moi, je fréquente pas beaucoup les commissariats, mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de monde dans les commissariats et qu'il y en a moins sur les voies publiques.
Mais bien sûr que oui.
Il y a un problème, Louis le disait, il connaît aussi bien les questions. Il y a aussi un vrai problème d'organisation ou de réorganisation et de simplification des tâches administrative pour permettre à tous ces policiers d'aller faire leur boulot qui n'est pas celui toujours qu'ils font dans les commissariats. Ça, c'est une évidence qu'il faille recruter aussi, sans aucun doute. Mais je trouve qu'on a tort de s'étonner parce que, à tort ou à raison, mais je crains à raison, Darmanin a décidé de faire la guerre à la drogue, il n'y aura jamais de victoire totale. Mais au moins, j'espère que dans les mois ou années, mois, qui viennent, on pourra peut-être dire, on n'assiste plus au spectacle, car il a raison, lamentable auquel on assiste, où c'est la voyoucratie qui vend des doses, qui dit bonjour, entrez, vous faites quoi, vous, TF1, oui, d'accord, France 2, non. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Qui font la pluie et le beau temps dans les quartiers et qui font la loi. Ça, c'est plus acceptable. J'admets volontiers que ça sera difficile de nettoyer tout ça sur un claquement de doigts, mais l'effort...
On est d'accord.
J'espère que l'effort sera maintenu et qu'on finira par avoir des résultats.
On est d'accord, mais moi j'avais dit, quand le ministre a dit on va s'attaquer au trafic en drogue, quand on s'attaque au trafic de drogue, il y a de la casse.
Absolument.
Donc il y a les dealers qui ne se laissent pas faire.
Il faut l'accepter.
Pour faire tomber des réseaux, il faut du renseignement. Oui. Il y a donc des gens qui parlent. Eh ben, ceux qui parlent, quand les autres savent d'en face qu'ils ont parlé, ben, on leur règle leur compte. Et donc il y aura de la casse. Donc paradoxalement, les règlements de compte, c'est parfois lié aussi au travail de la police.
Bon.
Et donc, les gens disent, oui, les règlements de compte. Ah, d'accord. Par contre, ce qui n'est plus acceptable, et vous avez raison, c'est des checkpoints, que les quartiers soient tenus par les leaders. Qu'on y rentre tous les jours de l'an pour les empêcher de continuer, oui, il y aura de la casse, mais au moins on est là. Mais leur laisser le territoire, c'est plus acceptable.
Pas possible.
Carrément. Alors, 150 000 fonctionnaires de police, la police nationale, je l'ai dit tout à l'heure, sur les 150 000, on en a 50 000 qui sont sur des tâches administratives. Donc on en a 100 000 qui sont sur le terrain en sécurité publique et dans les services d'investigation. Moi, je dis que c'est aussi lié aux législateurs, et que je ne jette pas la pierre, mais qui alourdit les procédures et la paperasserie pour fonctionner. Il passe un temps
vous
considérable.
C'est exactement ce qu'Emmanuel Macron a dit.
Oui, mais moi j'ai pas les moyens de changer les choses, contrairement à Emmanuel Macron. Et si je les avais, permettez-moi de vous dire que je simplifierais pour qu'à un moment donné, quand on prenne les gens en flagrant délit, on n'ait pas une tonne de paperasserie aussi grande que le Larousse. C'est insupportable pour le fonctionnaire de police. Il y en a même qui se découragent à faire des interpellations.
C'est exactement ce que disait Emmanuel Macron.
Non, mais globalement, le constat est partagé. Il y a un consensus total. Et effectivement, Emmanuel Macron a eu à peu près les mêmes mots que ceux que vous tenez aujourd'hui. Donc, c'était il y a quelques jours à Amiens. Le problème, si on veut parler d'Emmanuel Macron, c'est qu'il fait le diagnostic un peu tard. C'est-à-dire qu'on aurait aimé peut-être que ce diagnostic soit fait en 2016, parce que, en fait, la situation était à peu près la même. Aujourd'hui, ce qui a changé aussi, c'est quand même une question de perception. Les médias s'intéressent beaucoup plus à ces questions-là. Donc, il faut le reconnaître, on met beaucoup plus la focale aussi sur ces sujets-là. Ça ne veut pas dire que ces sujets n'existaient pas avant, ou ça ne veut pas dire qu'on surjoue, ou je ne sais pas quoi.
Ça existe depuis longtemps.
Mais exactement. Et surtout, ce problème est de plus en plus insupportable pour les gens. Emmanuel Macron a bien compris le problème, c'est pour ça qu'il s'est réveillé. Un peu tard, je suis d'accord François avec vous, je regarde vos yeux rouler.
En fait, on a deux,
c'est trop tard.
En fait, il y a effectivement une législation qui augmente régulièrement avec des procédures de plus en plus complexes, avec des libertés, des protections de liberté de plus en plus. Et puis après, il y a aussi des juges qui demandent de plus en plus de travail aux policiers avant d'incarcérer. Donc les policiers, pour le dossier aille jusqu'au bout, ils sont obligés d'apporter le plus d'éléments possible à des magistrats ou à des procureurs, parce que les procs, si c'est pas... Ils disent, celui-là, on l'a. Bon. Donc il y a la double demande. Il y a à la fois les textes qui sont de plus en plus complexes, et puis la justice qui incarcère de moins en moins, pour des raisons qu'on peut imaginer.
Jean-Claude, vous me posiez une question tout à l'heure. Qu'est-ce que se sont dit Emmanuel Macron et Joe Biden?
Ah bah oui, je suis curieux.
Ils se sont parlé cet après-midi, quand même, à propos
combien
de crise de sous-marin.
Combien ils se sont parlé, on ne sait pas.
Ça peut aussi vous intéresser. Alors, ils annoncent déjà que Emmanuel Macron annonce que notre ambassadeur va retourner à Washington. Joe Biden, lui, estime qu'il faut une défense européenne plus forte en complément de l'OTAN. Et tous les deux annoncent, Macron et Biden, des consultations approfondies pour garantir la confiance. Langage diplomatique, s'il en est.
Ouais.
Tout ça pour ça. Sérieusement, qu'est-ce qu'on a obtenu en contrepartie? On ne sait pas encore.
Louis Dragnel. Alors déjà, ça c'est un communiqué officiel.
Oui, bien sûr.
Et je pense que ça reflète une partie des échanges entre Emmanuel Macron et Joe Biden, mais absolument pas tout. Je trouve simplement, il y a une chose que je trouve un peu gonflée de la part de Joe Biden, c'est quand il demande en fait à l'Union européenne d'être plus présente dans la zone Indo-Pacifique, où précisément ils sont en train de prendre le terrain.
Et
ils essaient de nous en chasser. Voilà, mais il manque pas, de toupet, Joe Biden, depuis le début, comme quand il expliquait qu'il était impatient d'échanger avec Emmanuel Macron. Donc je pense que non, mais c'est intéressant. Ça montre qu'il y a une volonté, en tout cas, entre les deux chefs d'État, de montrer. Qui ne veulent pas se déclarer la guerre, ça c'est la première chose. Oui. Il y a quelques heures, ce n'était pas forcément c'était pas acquis. Et puis la deuxième chose, on voit qu'il y a des sujets un peu de fond qui ont été évoqués, donc la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Ça on revient sur les questions de l'Europe politique, l'Europe de la défense qui n'existera hélas jamais. Mais donc ça, c'est pour le coup, on reste dans, un peu dans une utopie.
J'espère qu'on ne va pas, dans Jean-Claude, la foulée, renoncer aux indemnités auxquelles on a droit. Des indemnités financières très lourdes, très lourdes.
C'est bien
j'espère,
vous passiez
au parlement. C'est le sujet, Jean-Claude.
Non mais ça y est, le vrai sujet, il est déjà là. Il est mort.
Si l'ambassadeur repart, c'est fini.
Le sujet d'avenir, Jean-Claude, enfin c'est important, les questions économiques et les questions des compensations pour se faire un tout petit peu respecter. Je suis d'accord avec vous. Mais non, mais moi, la question, quelle est notre riposte, quelle est notre réponse?
Eh bien, justement, on l'a pas.
Un, à l'égard des États-Unis, et qu'est-ce qu'on exige?
On voit l'ambassadeur, c'est fini, la crise est terminée.
Mais Jean-Claude, on n'en sait rien, je sais. Ça, c'est ce qui est annoncé facilement. Et ensuite, je trouve, moi, depuis le début de cette crise, qu'il faut aussi balayer devant notre porte, parce qu'on entend tout le monde pleurnicher tous les jours. Et ce qui m'intéresserait, moi, de savoir, c'est ce que Emmanuel Macron compte faire en termes de redéploiement stratégique pour qu'à l'avenir, on ne se fasse plus avoir. Et deux, qu'on investisse cette zone Indo-Pacifique qui est extrêmement stratégique.
Allez, on fait une pause dans Punchline. On se retrouve dans un instant. On évoquera la situation à Paris, une manifestation de riverains a lieu en ce moment même. Visiblement, il y a beaucoup de monde. Et puis, on parlera d'Éric Zemmour, pipolisation de la vie d'Éric Zemmour avec cette photo en une de Paris Match. À tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, on va aller à Paris rejoindre l'une des équipes de CNews, Kinson et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes tout près du Jardin des Halles, dans le 19e arrondissement de Paris, là où les toxicomanes pourrissent la vie des habitants du quartier. Racontez-nous, Kin, il y a une nouvelle manifestation de riverains excédés, c'est bien cela ?
Oui, exactement, Laurence, comme tous les mercredis, nous sommes avec des riverains désabusés qui prennent, regardez, la direction du pont Riquet, nouveau lieu de vie de près de 200 toxicomanes. Des tentes sont installées, signe d'un campement durable aux yeux des habitants qui veulent reconquérir leur quartier. Une mère de famille me confiait tout à l'heure qu'elle devait contourner ce périmètre pour déposer son enfant à la crèche. Des riverains qui craignent de se faire agresser en terrasse car les toxicomanes sont éparpillés un peu partout dans le quartier. Et la visite d'Anne Hidalgo n'y a rien changé. Selon eux, aucune annonce n'a été faite. Je vous propose d'écouter le témoignage de cet habitant au micro de Fabrice Esner.
Je pense qu'on est encore plus en colère depuis qu'elle est venue, puisque pour sa venue, les rues ont été nettoyées, alors que nous vivons dans les odeurs d'urine et la puanteur en permanence. Mais pour la venue de Madame Hidalgo, les rues ont été nettoyées. Donc on a eu une soirée avec des rues propres. Et depuis, la rue d'Aubervilliers, par exemple, elle est de nouveau sale, elle est de nouveau jonchée de bris de verre, ce qui d'ailleurs peut blesser les enfants qui crèvent les pneus des vélos qui passent par là ou des trottinettes qui passent par là. Ce qui a mené à cette situation inacceptable, c'est une chaîne complète de décisions qui ont dysfonctionné des services des pouvoirs publics qui ne se parlent pas, la mairie qui prend des décisions unilatérales contre l'avis de la préfecture qui veut peut-être punir la mairie en n'agissant pas en conséquence puisque les choses n'ont pas été faites comme elle le souhaitait, mais qui en réalité punit les riverains.
Vous l'aurez compris, Laurence, nouveau rassemblement ce soir dans le 19e arrondissement de Paris. Vous le voyez, les habitants qui font face aux toxicomanes, l'image est très forte. Ils dénoncent l'inertie de la mairie et de la préfecture de police et de la région, car pendant ce temps, le trafic de crack continue dans ce quartier surnommé la poubelle de Paris par les riverains. Un autre rassemblement est prévu samedi 2 octobre, place Stalingrad, avec d'autres collectifs de riverains, Laurence.
Merci beaucoup, Kinson et Fabrice Elsner. François Pupponi, c'est absolument hallucinant ce qui se passe dans les rues de Paris.
Les habitants
viennent à tenter d'occuper leur rue face aux dealers.
Je ne décolère pas. Je ne comprends pas depuis le début de cette crise que la maire de Paris et le préfet de police ne soient pas capables ensemble d'aller rencontrer les habitants pour dire on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire. Mmh. Voilà. la maire de Paris qui vient pour expliquer c'est le préfet qui est méchant et donc c'est pas de sa faute, c'est la faute à l'État. L'État qui dit mais non, pas du tout, c'est, voilà, c'est insupportable. Parce qu'au milieu, il y a des êtres humains, des enfants qui essaient de survivre en étant dans un quartier de Paris en disant mais venez. Alors après, effectivement, les services municipaux qui viennent nettoyer parce que la maire arrive, c'est juste honteux. C'est dire aux habitants bah, quand elle est là, on le fait, puis quand elle n'est pas là, bah, on le fait plus. Enfin, c'est incompréhensible pour moi parce que l'État est discrédité, la mairie est discréditée et les gens n'en peuvent plus. Donc, qu'ils viennent ensemble régulièrement, rencontrer les éléments et qu'ils trouvent une solution. Je ne dis pas que c'est facile, mais si tout le monde s'y met, on doit y arriver.
Louis Dragnel, dans
oui, trouver une solution, oui, mais laquelle, en fait? Et c'est là-dessus que personne n'est d'accord. À la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle souhaite à la fois installer des salles de shoot, ce qui est quand même fortement... Enfin, moi, je vois à titre personnel, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Et surtout, elle souhaite répartir les consommateurs de crack dans plein d'arrondissements de Paris. Et on imagine très bien, ce sera les arrondissements de l'Ouest parisien qui sont beaucoup moins concernés par ces questions-là, pour, entre guillemets, désengorger les arrondissements du Nord et de l'Est parisien. Mais on sait très bien que ça ne résout absolument pas le problème. Puis, il y a plein de tabous dans cette histoire. Il y a une surconcentration de plein de misères, en fait, dans ces endroits-là. Il y a une immigration qui est assez forte. C'est quand même l'endroit à chaque fois aussi, c'est dans ce coin-là que se retrouvent les migrants qui arrivent et qui sont expulsés tous les mois de manière caricaturale. Ça devient presque ridicule.
Expulsés, déplacés. Hein, parce que comment expulsés, déplacés.
Oui, en fait, ils sont déplacés. Donc, en fait, à chaque fois, on déporte le problème. Sauf que je pense que sur cette question-là, c'est une question à la fois de d'abord et avant tout pour les riverains et ensuite de santé publique. Pour les consommateurs de crack, maintenant, ce qu'il faut, il n'y a pas d'autre choix. Quand vous êtes intoxiqué à ce niveau-là, je pense, ça doit passer par des mesures radicales, c'est l'internement avec une cure obligatoire forcée jusqu'à ce que la personne se désintoxique. Ensuite, il y a vraiment un sujet politique. Trois acteurs, le gouvernement, qui n'a pas toujours été clair, et qui a validé la semaine dernière l'expérimentation de salles de shoot à Paris, alors que jusqu'à aujourd'hui, il était contre. Deux lignes, Olivier Véran qui dit pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Gérald Darmanin qui parle de la drogue comme de la merde, et donc qui considère qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Donc le gouvernement n'est pas très à l'aise. Et de l'autre côté, il y a un duel en fait, entre le préfet de police et la maire de Paris. Le préfet de police a dit OK à la maire de Paris pour créer sa police municipale, qui tarde à se mettre en place et à venir. Mmh. Et donc, en fait, il lui dit, débrouille-toi avec ton problème. T'as voulu créer ta police municipale. Nous, on te laisse la sécurité publique, la sécurité du quotidien. Maintenant, dont acte au travail. Et du coup, ça va devenir, je pense, un vrai caillou dans la chaussure pour Anne Hidalgo, qui cherche Absolument. À être crédible sur les questions...
Qui est candidate à la présidentielle.
Qui est candidate à la présidentielle, qui cherche à tout prix à montrer que sur le régalien, elle a compris les problèmes. Sauf que là, en fait, dans sa propre ville, en fait, elle est pas capable de gérer le problème pour des raisons idéologiques. Parce qu'elle considère qu'il faut des salles de shoot, il suffit d'écouter les riverains, personne n'en veut, personne n'y croit, et même les scientifiques disent que c'est une mauvaise idée.
– Ok, un tout petit mot Karim Zeribi ?–
Moi je trouve la situation déplorable, c'est une situation qui ne fait qu'affaiblir la République. Et quand on veut croire à la République, à notre idéal républicain, on ne peut être qu'en colère face à ce comportement de nos institutions, mairie de Paris, préfet de police et gouvernement. Il faut avancer unis face à ce type de problème. Donc, c'est un problème qui est profond, qui relève d'un besoin de sécurité, qui relève d'un besoin de justice, d'un besoin sanitaire. Donc, tout le monde a sa part de responsabilité, mais personne ne veut l'assumer. Se renvoyer la patate chaude depuis des mois, avec des familles qui sont prises en otage, et je puis vous dire là, et c'est pas anodin, c'est pas des gens qui ont voté contre Anne Hidalgo, là, hein, qu'on entend. Dans ces arrondissements, habituellement, ça vote sa couleur politique, hein. Donc ça veut dire que si on a des gens aussi excédés, imaginez-vous. Donc ça veut dire que la situation, elle est gravissime et elle ne fait qu'empirer. Donc Anne Hidalgo est candidate à la présidentielle, si elle n'arrive pas à gérer le 10e arrondissement de Paris, comment voulez-vous qu'elle gère la France ? Fait, comme ça, moi, de but en blanc, je me dis ça. Je me dis, il y a un problème de fond, là. Et alors, je ne veux pas lui jeter la pierre à elle seulement, mais j'aurais aimé que la République arrive unie, solidaire, et que le préfet de police soit à côté d'elle, et que le ministre de l'Intérieur soit à côté du préfet de police, et que d'une même voix, ils disent, voilà, on va mettre le paquet sur les questions de sécurité, on va mettre le paquet sur les questions sanitaires. Et je vais vous dire, moi, ce que j'en pense au fond, sur le plan idéologique. Je pense qu'il faut de l'injonction thérapeutique. Il faut de l'obligation thérapeutique. Il y en a marre d'attendre que les gens aient envie de sortir de la drogue. Ils ne sont plus en état de choisir. On oblige les gens à se faire vacciner dans notre pays, on n'est pas capable de les obliger à se désintoxiquer, mais on est où? Comme on parle de démocratie, mais il faut les prendre, les mettre en hospitalisation, centre fermé, on vous sèvre, donc on vous soigne, et on vous donne effectivement une chance de retrouver un état normal. Et de l'autre côté, on lutte contre les dealers.
Il y a quand même un autre sujet, c'est qu'une partie des dealers et des consommateurs sont souvent des clandestins.
Oui,
les dealers, c'est les Afghans, les consommateurs, c'est souvent... Place, ouais. Voilà, d'accord, mais quelqu'un qui est en situation irrégulière, clandestin, et qui tous les jours ou vend ou consomme de la drogue là-bas sans que l'État ne puisse rien faire...
Ben on l'expulse.
Ben voilà, c'est une décision politique. C'est juste insupportable. Et donc, il faut qu'on y arrive. Et là où il faut au moins faire quelque chose tous les jours, c'est nettoyer la rue. Et mettre des policiers pour que les enfants puissent accompagner leurs enfants dans les écoles, dans
les
bonnes conditions.
Les parents puissent accompagner les enfants.
Voilà. Le temps qu'on n'a pas réglé le problème au fond.
Allez, bon, un dernier mot, Jean-Claude.
L'État et la mairie ne sortent pas grandis de cet épisode qui dure depuis maintenant des mois. Mais au moins, l'État donne le sentiment avec Darmanin de se bagarrer contre la drogue. Et je trouve que pour le maire de Paris, ou la mairesse, c'est une lourde occasion perdue. Lourde occasion perdue parce que.
On passe à un autre sujet, Jean-Claude.
Elle avait quand même, elle avait la possibilité d'essayer de prendre les choses en main, de dire, et de passer pour une femme déterminée, sûre de ses capacités d'action. Comme on dit, gesticule, elle est candidate à la présidence de la République. Elle a laissé passer une occasion en or de prouver qu'elle a été capable de gérer ce pays. Elle est passée à côté.
On passe à ces photos dont je vous parlais tout à l'heure. Des photos d'Éric Zemmour, à la une de l'hebdomadaire Paris Match, où on le voit lors d'une de ses séances de dédicaces. C'était à tout près de Toulon, je crois. Ici, en compagnie de sa conseillère, Louis de Raguenel. C'est une photo volée, une photo volée à Éric Zemmour, qui a été prise il y a quelques jours, c'est ça ?
Oui, elle a été prise au lendemain de son meeting, lapsus révélateur, de sa séance de dédicace à Toulon, le 17 septembre. Donc elle a été prise le lendemain matin, autour de 9h30, sur une plage à côté de Toulon.
Et donc là, on est avec, c'est une photo volée, on le rappelle, une paparazzade, avec sa conseillère, celle qui dirige sa campagne, qui n'en est pas une encore,
oui,
la campagne.
Oui, qui est un peu son éminence grise, celle qui lui fournit ses fiches. C'est quelqu'un de, une femme vraiment brillante d'ailleurs, une jeune énarque qui a 28 ans, et qui a un parcours déjà politique très important. Elle a travaillé pour Henri Guénaud, elle a travaillé pour pas mal de personnes vraiment qui ont compté dans la vie politique. Elle a cheminé personnellement, elle a été proche à un moment de Pierre Moscovici, vous voyez, un socialiste. Et donc effectivement, c'est un sujet qui n'est jamais simple à traiter en fait, parce qu'on touche à l'intimité de
la vie privée d'un candidat.
Donc c'est un choix éditorial qu'a fait Paris Match en décidant de publier ces photos.
Pourquoi ?
Alors ça, je pense qu'il faut poser la question à Paris Match.
C'est une information, c'est de la pipolisation de la vie politique. Éric Zemmour n'est pas candidat.
Alors oui, clairement, on est dans un sujet de pipolisation de la vie politique. Alors il y a deux manières de voir le sujet. Aujourd'hui, si vous ne faites pas la couverture de Paris Match, vous n'êtes pas complètement candidat à la présidentielle. Donc ça y est, là, ça a été fait à son insu, clairement.
Oui.
Même si,
on va l'écouter,
moi, d'après ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu recueillir, au moment où les photos ont été prises, il y avait à peu près 300 personnes sur la plage. Il s'est fait photographier avant, après il prenait des selfies avec les gens. Donc il n'y avait aucune volonté, manifestement, de se cacher. Et donc, on peut finir par se demander si, au fond de lui, il ne souhaitait pas que finalement ça sorte assez tôt, avant le lancement de sa campagne probable.
Que ce soit une stratégie politique.
Parlait dans son livre.
En a parlé il y a quelques jours chez Pascal Praud. On va écouter ce qu'il lui disait. Pascal l'interrogeait sur l'impact d'une candidature éventuelle à la présidence de la République sur la vie privée et la famille et l'entourage. Écoutez sa réponse.
J'ai pas parlé en revanche des coûts qui peuvent pleuvoir et notamment, alors parfois on parle de la vie privée. Hein.
Je sais.
On dit votre vie privée, c'est...
J'en parle, vous avez vu.
Oui.
Je pense...
Il n'y a rien ?
On m'inventera des choses, vous savez. On dit déjà que je suis anti-républicain, que je suis raciste, donc on dira que je suis agresseur sexuel, un violeur, etc. On va tout inventer, vous savez, pour m'arrêter. Je n'en doute pas.
Être candidat à la présidence de la République, c'est l'épreuve du feu, François Pupponi. On est passé au scanner de A à Z. Il y a des gens qui se font laminer.
On vous met dans une lessiveuse, dans une essoreuse, on appuie sur le bouton. Voilà. Moi, j'étais proche de Strauss-Kahn, j'étais proche, j'ai donc participé à sa candidature. Et oui, effectivement, on a eu des services pendant des mois et des mois qui ont tout épluché, regardé, cherché. Il y a eu l'affaire de New York, mais il y avait surtout, parce que celle-là, je pense que ce n'était pas monté, mais par contre, l'affaire du Carlton, elle était partie depuis bien longtemps, en mettant ça dans les mains d'un juge, en disant... à la fin, ça servira. Voilà. Donc oui, c'est les boules puantes. C'est pas une belle période pour la République. Voilà. C'est comment certains peuvent faire tomber l'autre pour prendre la place.
Jean-Claude, ça dit aussi de la place, quelque chose de la place qu'a prise Éric Zemmour aujourd'hui dans l'échiquier politique.
C'est clair.
Il est incontournable aujourd'hui ?
Il est, je pense qu'il passe pour un candidat, parce que on ne retirera pas de l'idée qu'il va être candidat, que c'est donc un candidat ou un homme, dirons-nous, dangereux. Simplement, cette photo, moi, elle me trouble, et le choix de Paris Match me trouble un peu. Je ne serais pas loin d'être d'accord avec ce que suggérait Louis Dragnel. Ça ne vient pas des réseaux sociaux, quand même. Mm-hmm. Ça vient pas, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas un truc... tu l'as dit, il était avec cette jeune femme devant 300 personnes sur la plage. Je ne suis pas sûr, on verra, mais je ne suis pas sûr qu'il n'anticipe pas une situation qu'il redoutait et dont il pourra dire, bon, bah, c'est classique. Il le dit à Pascal Pro, on va tout me sortir parce que c'est la règle, entre guillemets, triste règle, mais c'est ainsi, d'une campagne présidentielle. Je n'en sais rien.
Louis, et
attendons
après,
de voir comment il va, lui, réagir. Encore une fois, Paris Match, d'habitude, ce sont des gens quand même mesurés, qui réfléchissent à ce qu'ils font, et qui en apprécient les conséquences, etc., etc. On n'est pas sur les réseaux sociaux, là.
Alors, Louis Dragnel.
Je voulais simplement dire, par rapport à ce que vous disiez, Jean-Claude, il y a deux choses qui montre aussi qu'il avait anticipé ça. C'est que, premier élément, il n'annule pas son débat demain soir face à Jean-Luc Mélenchon, en tout cas à ce stade pour le moment. Et puis, il n'annule pas non plus son déplacement en Hongrie pour aller rencontrer Viktor Orban vendredi prochain. Donc, on a l'impression quand même
qu'il
s'y attendait. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, bien. Je ne fais aucun jugement moral sur cette question-là.
Et juste, je précise à nos auditeurs téléspectateurs que le Paris Match fait partie du groupe Lagardère, auquel appartient aussi Europe 1. Karim, sur cette photo...
On peut donner toute interprétation à cette photo. Moi, j'ai l'impression que Zemmour ne s'est pas nagé, que sa conseillère lui sert de bouée. Donc, peut-être qu'elle vient le sauver, qu'il allait se noyer, là. Donc, non, mais pour être plus sérieux, quand on est candidat à la présidentielle, on sait très bien qu'on est scanné. Et quand on parle de scan, on parle même d'un scan,
scalpel,
j'ai envie de dire, qui va chercher les moindres détails, et même jusqu'à la poubelle. Donc c'est ça,
ce
à quoi on a droit quand on est candidat à la présidentielle. Après, il faut dire ce qui est. Hein, il y a des candidats à la présidentielle qui se prêtent plus au jeu de l'exposition.
Bien sûr.
Et d'autres moins.
On a vu des unes avec Emmanuel Macron, beaucoup plus conciliante.
Il se met beaucoup en scène. Il se met beaucoup
en
scène.
En l'occurrence.
Il se met beaucoup en scène.
Malgré lui.
Met beaucoup en scène. Quand vous dites justement qu'il y a 300 personnes sur la plage et qu'il y a des potentialités aujourd'hui parce que tout le monde a un téléphone à être pris en photo, excusez-moi si ça, c'est vouloir se cacher, vouloir éviter d'être pris en photo. Excusez-moi, je veux dire, quelque part, vous dites tout et son contraire.
Non, pas du tout.
C'est une mise en scène.
Non, mais moi, ce qui s'est passé avec Paris Match, c'est pas une mise en scène. Il n'y a pas eu un deal Éric Zemmour Paris Match.
Je parle de lui, il se met en scène.
Ensuite, moi, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que, in fine, comme il savait que ça allait sortir, est-ce qu'il il s'est pas dit, tiens, il faut que ça sorte.
Sans révéler en secret, à moins quand on est candidat, on sait que ça va arriver.
Bien sûr.
Et on dit, tant pis. Parce qu'on sait comme ça. On doit y passer. Et ben, c'est pas grave. Voilà. Rappelez-vous aussi, Fillon qui dit, c'est pas grave, je vais y aller comme jusqu'au bout. Voilà. Il y a une espèce, quand la machine est lancée, parfois, les candidats perdent un peu de lucidité, ils pensent que ça fait partie du jeu, et ça doit arriver, c'est arrivé, ils considèrent que les Français ne vont pas lui tenir rigueur éventuellement d'être en photo avec une femme à la plage, voilà. Et donc, ils prennent le pari de dire, de toute façon, c'est comme ça, c'est la règle du jeu, j'y passe.
D'accord. Mais il y a un risque pour Éric Zemmour, c'est qu'il découvre ce que c'est que d'être à la fois un homme politique, parce que c'était un auteur, c'était un polémiste et autres, mais qui quand même n'était pas dans ce monde-là, dans cette sphère-là. Là, il a basculé. Il a basculé dans la sphère des hommes politiques qui sont épiés. Mais épiés.
Pardon, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est.
Qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est.
Ils savent que ça existe, mais ils ne se rendent pas compte de ce que c'est.
De la violence que ça représente pour une famille.
Il n'a pas fini.
La violence que ça représente pour une famille.
Il n'a pas fini de s'en rendre compte.
Qu'il a changé de monde. Insistons sur l'impact.
Il se croit, pour en avoir rencontré quelqu'un, il se croit capable de supporter la pression sans se rendre compte de ce qu'est la gravité, la dureté de la chose. Et à un moment, quand ils comprennent vraiment, ils regrettent.
Attention, il est parti vite, il est parti fort, on parle de lui partout, donc on met sa vie privée, on met ses déplacements, machin. Moi, j'ai été conseiller d'un candidat à la présidentielle qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, il était à 15% au mois de novembre-décembre, il a fini à 5%.
Bon, allez, merci à vous tous pour ce débat dans Punchline, merci à vous chers auditeurs, chers téléspectateurs, on se retrouve demain, évidemment, pour CNews. Bonne soirée à vous tous, tout de suite, c'est Christine Kelly sur CNews avec ses invités pour Face à l'Info, et je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline, on va parler du budget 2022, à tout de suite.
Laurence Ferrari sur Europe 1.